Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour frère Philippe.
Nous avons vu ensemble les mystères de l'enfance de Jésus et dans notre précédent entretien, nous avions commencé à ouvrir la question des mystères de la vie cachée de Jésus au catéchisme à partir du 531, l'article 531 jusqu'à 533. À la fin de cette section sur les mystères de la vie cachée de Jésus, il y a le recouvrement de Jésus au temple, au 534. Et je me disais que en travaillant sur ces mystères, en méditant ces mystères de l'enfance de Jésus, une tentation peut s'emparer de nous, c'est de regarder Jésus, le bébé Jésus, l'enfant Jésus, et d'entrer dans un regard finalement très, très anthropologique, trop humain, de réduire Jésus à cette humanité qu'il partage véritablement du reste. Mais peut-être faut-il aller plus loin, et le recouvrement de Jésus au temple va mettre en confrontation Jésus, l'enfant Jésus à 12 ans, et ses parents.
Oui, de fait, il y a deux axes dans cette vie cachée de Jésus. D'une part, la soumission de Jésus à ses parents, à Marie, sa mère, à Joseph, son père légal, où il accomplit parfaitement, dans le fond, ce que le Deutéronome et le livre de l'Exode demandent. Honore ton père et ta mère. Jésus l'a parfaitement appliqué dans une soumission de tous les jours à cette cellule familiale, et de ce point de vue-là, c'est un modèle. Mais on risque effectivement, à cause de la tendresse qu'évoque la crèche, d'en rester un peu à cette dimension que Nietzsche qualifierait d'humain trop humain. Or, Jésus est Dieu, et il l'affirme d'une manière charitable, mais d'une manière décidée et décisive pour la suite, en disant à ses parents qui le retrouvent au temple à discuter avec les docteurs et les scribes sur la loi, sur la parole de Dieu, « Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père ?» C'est-à-dire, il rappelle sa filiation première, qui est sa filiation éternelle. Il est engendré avant le temps de son Père d'une manière éternelle. C'est ça qui fait son identité première. Il est le Fils de Dieu, et il le rappelle pour que ne soit pas enfoui dans le cœur de sa mère de sang et de son père adoptif, cette grande dimension. Et Marie, on dit en réciprocité, gardait fidèlement tous ses souvenirs dans son cœur. On le dit même deux fois, 2.19, 2.51, ça veut dire que le cœur de Marie a été très sollicité dans cette période pour qu'elle tienne les deux. À la fois, c'est un enfant comme les autres qui assume parfaitement son identité d'enfant juif, de fidèle finalement à l'identité humaine et juive telle que Dieu lui donne, et d'un autre côté est déjà tendu vers l'achèvement de sa mission. Et on pense à la parole de Jésus à la Vierge Marie, dans la deuxième parole que nous avons de lui, c'est à Cana, et la première parole, c'est de dire à la Vierge Marie que mon heure n'est pas venue. Donc c'est bien son heure qui est au centre de son itinéraire, au centre de sa mission, et qu'il rappelle en temps opportun, je dirais.
Oui, ce recouvrement au temple nous est effectivement un moment de tension. D'ailleurs, dans ce recouvrement au temple, il y a ce passage chez Saint-Luc, donc on va voir Jésus au milieu des docteurs, qui, je suis toujours frappé par ce passage, parce que on dit de Jésus qu'il est au milieu des docteurs, on dit qu'il posait des questions, Et dans le même verset quasiment, oui, ou dans la même phrase, on dit « tous étaient impressionnés, étonnés par ses réponses. »
L'intelligence de ses réponses.
L'intelligence de ses réponses. Alors qu'on dit qu'il pose des questions. Oui, oui. Les questions... Et là, je me dis, c'est aussi la rencontre de cet homme qui est Jésus, cet enfant. Donc et en même temps, il y a cette grâce de Dieu qui fait que ce qu'il est, ce qu'il représente, ce qu'il dit, même des questions, nous entraîne plus loin vers là où Dieu nous attend, oui, d'une certaine façon.
Oui, certainement. Il a gardé sa condition d'enfant, donc il posait des questions, il était en face de maîtres, et c'était des scribes de haute valeur qui connaissaient la Torah. Et effectivement, dans ces questions, il y avait l'origine. Et l'origine, c'était lui-même, la parole de Dieu. Donc, on devait ressentir un effet extraordinaire, cet enfant qui posait des questions, probablement auxquelles personne n'avait encore osé seulement se positionner. Et devant cet enfant lumineux, on sentait qu'il y avait déjà comme une réponse qui était faite. Et c'est ça, cette intelligence de l'enfant Jésus, il ne faut jamais la perdre de vue dans un monde assez anti-intellectuel, qui se développe même parfois dans l'Église, où on voudrait toujours ramasser les choses, je dirais, à un niveau purement basique. Or, tel n'est pas l'ensemble de l'Écriture. Saint Paul dira au début de l'Épître aux Romains qu'il se doit à la fois aux simples et aux savants. Et je crois que c'est important de penser que cet évangile s'adresse à tous. Et Jésus n'a pas négligé les plus savants de son époque, les scribes et les pharisiens. Il a bien voulu aussi les toucher, les convertir pour qu'ils rentrent eux aussi dans le royaume. Le royaume où on découvre un père qui a l'intelligence supérieure, puisque c'est Dieu lui-même.
J'aime assez bien quand tu dis qu'effectivement ça vient bousculer les tendances qu'on peut avoir un peu anti-intellectuelles, au sens où, j'aime bien redire, intellectuel, ce serait pas simplement être érudit, tant mieux quand on l'est. Ce n'est pas dominer tout le monde, c'est pas ça. C'est se dire de rechercher, de creuser, d'interroger, de poser des questions, d'approfondir, d'entrer plus avant dans le mystère. Jésus.
Oui.
Finalement, on a dit, il posait des questions, qu'il est prise pour des réponses. Et c'est marrant de voir la première parole qu'on entend de Jésus, c'est « Ne saviez-vous pas que je vais être aux affaires de mon Père ?» C'est une question aussi. Oui. Dieu nous sollicite en Jésus, Dieu nous sollicite à aller plus loin, à ne pas en rester, d'une manière un petit peu, paresseuse, à ce qui semble acquis, ce qui est ramené à notre mesure.
Oui, tout à fait. Et je crois que le baptême, dans la suite des mystères, je dirais, premier mystère lumineux qui fait sortir de la vie, je dirais, cachée, puisqu'il y a quelque chose qui se manifeste publiquement. Là aussi, Jésus est seulement un signe, il ne dit rien. Peut-être qu'il répond à Jean-Baptiste qui lui dit qu'il n'est pas digne de le plonger dans l'eau, et Jésus lui dit seulement « il faut que s'accomplisse toute justice ». Donc là aussi, c'est un renvoi dans le fond à l'autorité de sa mission qui lui vient du Père, qui a été si bien manifestée dans ces moments de la sortie de Jésus des eaux du Jourdain, puisque une voix se fait entendre, c'est la voix du Père, qui dit à la foule juive présente, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et donc, il faut l'écouter, il faut passer de l'écoute, je dirais, des Écritures telles qu'elles ont été données depuis toujours dans la Première Alliance, à l'écoute du Fils bien-aimé, qu'il récapitule tous, comme nous avons vu, hein, ce mystère à la fois de son origine du Père, ce mystère d'oblation de sa vie et ce mystère de récapitulation dans l'esprit, hein, qui est le sens complet de ce mystère. Et donc nous devons sans cesse nous réjouir quand nous voyons Jésus qui est dans cette manifestation publique sous la colombe de l'esprit, qui est un signe visible, comme la voix du Père est un signe audible, c'est-à-dire on passe de la vie totalement cachée de cette identité divine à tout à coup une manifestation. Donc vraiment la transition de la vie cachée à la vie publique, c'est le baptême.
C'est le baptême.
Et on parlera, c'est le pape Jean-Paul II qui proposera de les méditer sous le titre de très beau de mystère lumineux. Parce que dans le fond, il y a beaucoup de belles choses de cette bonne nouvelle qui sont données dans cette période, même si bien sûr on va déboucher après sur les mystères douloureux qui va être l'accomplissement de cette oblation de sa vie pour le salut des hommes. Mais avant, ben, c'est toute une série de bonnes choses qu'il ne faut pas manquer. L'Eucharistie, la transfiguration, l'annonce du royaume, les noces de Cana, le baptême. Voilà ce que le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, a voulu résumer pour nous dans ces mystères lumineux qui s'imbriquent bien dans la suite des mystères cachés, les mystères joyeux des premiers moments de la vie de Jésus qui sont donnés dans Saint Matthieu et dans Saint Luc. Là, les mystères lumineux sont donnés dans les quatre évangiles, parce qu'on ne peut pas s'en passer.
Ah oui, oui.
C'est très beau, hein, parce que Marc et Jean débutent dessus. Donc on comprend que c'est indispensable pour la suite du mystère.
Ça me fait penser que le baptême, notre baptême, la tradition l'appelle aussi l'illumination. Et c'est cette mise en lumière de ce que nous sommes vraiment appelés à être, d'une certaine façon. C'est rendre, le baptême rend notre vie lumineuse, à nous aussi, à l'imitation du Christ.
À l'imitation du Christ. D'ailleurs, Jésus le dit dans son discours du sermon sur la montagne, « Vous êtes la lumière du monde », alors qu'on sait bien que, par ailleurs, lui-même a dit « Je suis la lumière du monde ».
Merci, frère Édouard.
À bientôt, au revoir.